À l'âge de 19 ans seulement, il participe aux JO de 1936 à Berlin. Et voilà que, lors du dernier tour, il se fait remarquer pour sa rapidité et Hitler insiste pour le saluer en personne et s'entretenir avec lui. C'était le chef d'État de l'époque. Puis la guerre éclate. En 1941, il s'engage dans l'armée de l'air. Et en 1943, alors qu'il revient d'une mission de sauvetage, son avion s'écrase en plein océan dans le Pacifique. Rien à l'horizon. Sur les 11 soldats de l'avion, 3 seuls survivent à l'accident. Alors, sur un canot de sauvetage, ils sont à la dérive pendant 47 jours, sans rien à manger, sans rien à boire. Débrouillez-vous. Et au bout de ces 47 jours, enfin, des êtres humains. Mais pas ceux qu'on attendait. C'était les Japonais, les ennemis. Il est donc recueilli par l'armée japonaise et puis emprisonné pendant 2 années complètes, jusqu'à la fin de la guerre. Et Zamperini est ainsi avec un menu quotidien très agréable. Torture, sévices, sévices, torture. Chaque jour. Un certain Watanabe se plaît à lui faire découvrir des nouveautés du coin. C'est le plus grand criminel de guerre qui a été recherché activement après le conflit. Mais revenons, si vous voulez bien, à la parabole. Une parabole. Le royaume des cieux est semblable à quelque chose qui nous parle d'une similitude. Une comparaison peut-être, mais une comparaison qui a des limites aussi. Et j'aimerais qu'on passe juste quelques instants sur ce qu'est une parabole, pour pouvoir ensuite l'analyser ensemble. Une parabole, c'est une parole pédagogique qui peut revêtir 3 caractéristiques essentielles. La brièveté, la clarté et la vraisemblance. C'est loin d'être quelque chose comme un miroir où c'est exactement conforme à la réalité. Mais par contre, ça reprend quand même des illustrations de la vie quotidienne des auditeurs. C'est une histoire simple en général, facile à comprendre, facile à mémoriser. Et c'est loin d'être quelque chose qui est spécifique à Christ. Déjà, les rabbins de l'époque avaient cette habitude de raconter des histoires. Et là, le Christ se plaît à raconter une parabole pour présenter le mystère du royaume. Le mystère, autrement dit, on peut tenter de s'approcher, de comprendre, mais sans forcément cerner ce royaume, parce que ça nous échappe, parce que c'est au-delà de notre compréhension finalement. Alors la parabole, oui, ça restera toujours un peu énigmatique, et c'est justement parce que c'est énigmatique qu'elle est attrayante, qu'elle intrigue, qu'elle suscite la curiosité. Pourquoi le Christ se fatigue-t-il à parler en parabole? Pourquoi ne pas parler cash directement? Peut-être parce que il a envie aussi de nous surprendre encore ce matin. Peut-être aussi parce que il souhaite susciter cette réflexion au fond de nous. Peut-être aussi parce qu'il a envie que nous poursuivions la réflexion par notre propre imagination. Et oui, ça fait aussi partie des caractéristiques de la parabole. Et Parmentier nous raconte ce que l'Antiquité savait déjà, qu'un texte ne renferme pas un sens déposé, unique, mais plutôt déploie des sens multiples, quoique limités par les balises du texte, auxquels les destinataires contribuent par une part active d'imagination. Des sens multiples. La parabole, elle est vivante, et il faut qu'elle le reste. La parabole demande une participation de l'auditeur, active, acteur. Et j'ose croire que ce matin, nous serons tous des acteurs de cette parabole. Et enfin, la parabole n'a pas peur de jouer plusieurs interprétations simultanément, sans forcément se contredire. Alors, prenons, si vous le voulez bien, les versets 51 et 52 de notre chapitre 13 de Matthieu. Où Christ va peut-être devancer certaines réflexions. Au verset 51 et 52 du chapitre 13 de Matthieu. Le Seigneur va dire à ses disciples, « Avez-vous compris toutes ces choses ?»« Oui, répondirent-ils. » Et il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » L'ancien et le nouveau. Une interprétation peut-être plus traditionnelle, une interprétation nouvelle, innovante. Alors pour l'interprétation populaire ou traditionnelle, je ne vais pas vous raconter de nouvelles choses. Vous pouvez la trouver dans la suite du chapitre 13, au verset 36 jusqu'à 43, et vous pourrez méditer là-dessus si vous voulez tout à l'heure. Par contre, je vais vous proposer ce matin, je vais nous proposer quelque chose d'un peu plus innovant peut-être, une interprétation nouvelle, une approche en tout cas nouvelle de cette parabole, et c'est ce vers quoi on va tendre ensemble. La parabole parle de semence. Qui dit semence dit patience. Patience parce qu'il faut attendre que la graine germe. Mais c'est aussi espérance parce que une semence, ça donne du fruit. Espérance qui, ça donne la vie, cette promesse finalement, la fructification, la multiplication, la production. Et dans cette parabole, il y a deux acteurs principaux, ce sont les semeurs. Il y en a un qui est le maître, le propriétaire, et puis il y a son ennemi, l'imitateur. Celui qui va faire de la contrefaçon quelque part, mais pas dans son champ à lui parce qu'il n'en a pas. Il va le faire dans le champ du maître. L'ennemi, c'est un mot assez fort, celui qu'on déteste, celui qu'on hait, celui avec qui il y a une totale hostilité, pas de réconciliation possible. Et puis le but de chacun des deux est aussi aux antipodes. Le maître d'un côté souhaite récolter quelque chose de constructif. L'ennemi, lui, c'est plutôt détruire la récolte, quelque chose de négatif. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a deux semences différentes qui sont semées. La bonne semence ou le blé, qui sera appelé comme ça plus tard. Et puis bien sûr, livrer. Mais qu'est-ce que livrer? Déjà au IVe siècle, Théophraste, un grec, indiquait qu'il y a des blés sans ivrer qu'on qualifiait de purs. Et il donne les régions de la Sicile, les régions d'Égypte également, où là on était sûr d'avoir un blé pur, sans ivrer. C'est intéressant de voir que déjà dans l'Antiquité, c'était connu que les farines de blé contenaient bien souvent un peu d'ivraie, par accident, parce que les techniques agricoles n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Et certains estiment même qu'avec 10% de farine d'ivraie dans la farine de blé, ça suffisait pour que le pain ne monte plus. Quasiment inutile cette farine. L'ivraie, avec même ce pourcentage, ça provoquait aussi des maux de tête. C'était quelque chose de courant. L'ivraie, une mauvaise herbe parmi tant d'autres, ou plutôt différents types de mauvaises herbes qu'on appelle ivraies. Mais en fait, celle qui est spécialement attachée au blé, c'est l'ivraie enivrante. L'ivraie enivrante, on l'appelle comme ça à cause d'un champignon qu'elle renferme. À faible dose, c'est comparable à de l'ivresse, tout simplement. À forte dose, par contre, c'est toxique. L'ivraie, en latin, ebrietas, ce qui donne en français ébriété, ivresse. C'est la même famille. Zizania nous donne le terme grec, avec une origine sémantique qui veut dire la division. Zizanie en français, zizanie, c'est le premier terme originel pour désigner l'ivraie. Ensuite, on a également la signification de discorde qui s'est ajoutée. L'ivraie ou la zizanie. En tout cas, le fruit qui est issu d'une bonne semence, le blé en l'occurrence, c'est un fruit qui est utile, un fruit qui est bon. A contrario, l'ivraie, c'est quelque chose qui est inutile, voire même, dans notre cas, toxique. C'est dangereux. Et c'est seulement à partir de l'apparition de ce fruit que l'on pourra distinguer c'est du blé ou c'est de l'ivraie. Avant ça, impossible, parce que c'est la même chose. C'est intéressant parce que c'est justement au fruit qu'on va les reconnaître. Et c'est à ce moment-là précis que les serviteurs vont voir qu'en effet, dans le champ, il y a aussi de l'ivraie. Et c'est là qu'ils vont vouloir réagir. Réagir peut-être, mais trop tard. Trop tard, en effet. Tiens, comment appelle-t-on cette parabole ? Alors, peut-être un peu plus fort. Ok, il y a d'autres titres ? Parabole de la mauvaise herbe, j'aime ça. Parabole de l'ivraie. Et c'est intéressant de voir que les disciples même au verset 36 vont revenir vers le Christ et lui dire « Mais Seigneur, explique-nous la parabole de l'ivraie ou de la mauvaise herbe. » C'est bizarre. C'est pas la parabole de la bonne semence. Pourquoi retenir l'ivraie ou la mauvaise herbe? Pourquoi focaliser là-dessus? Alors que le texte lui-même commence par la bonne semence et termine par le blé. Comme pour dire, et c'est merci à Matthieu qui a écrit, c'est ça qu'il faut retenir les amis, hein. Tout ce qui est inclus dans ce texte c'est ça, l'essentiel. Mais non, les serviteurs voient l'ivraie, les disciples retiennent l'ivraie, et certaines Bibles mentionnent encore parabole de la mauvaise herbe. Et nous avons deux types de semences. Reprenons, si vous le voulez bien, les versets 28 à 30 qu'on va lire ensemble. Le maître leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Deux types de semences totalement différentes. La zizanie ou l'ivraie, devrais-je dire en fait les zizanies ou les ivraies parce que le terme grec est employé exclusivement au pluriel. Et les serviteurs l'ont bien compris, c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils montrent du doigt, c'est ce qui est visible à leurs yeux, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Ça attire le regard. Mais Matthieu, dans son art littéraire, encore un autre clin d'œil, nous montre que c'est pas là-dessus qu'il faut insister, parce qu'il n'y a aucun qualificatif à côté de ce mot « ivré ». Par contre, la semence du maître est qualifiée de bonne. C'est pas n'importe laquelle. C'est pas n'importe quelle semence, c'est la bonne semence, et puis ensuite qualifiée de blé. Et curieusement, autant le mot blé que le mot semence, c'est un emploi au singulier, comme pour se distinguer. Comme pour dire aussi, il n'y a qu'une seule semence qui est bonne. Il n'y a peut-être qu'une seule origine, qu'une seule source. Et on reviendra sur cette notion de source tout à l'heure. Les ivraies, donc, sont résistantes par rapport au blé. Et elles sont tellement résistantes que les serviteurs veulent intervenir et chercher à les ôter, à les arracher pour les entasser. Le terme au verset 29, le verbe, il est quand même intéressant, c'est cueillir, recueillir, réunir, ramasser, collecter, mettre ensemble. Sun lego. Dire avec, exprimer ensemble, faire un énorme tas visible. À la force, on est fort. Hein. Peut-être même qu'avec des mots, on peut exprimer nos mots M-A-U-X, mais qu'en faisant cela, c'est peut-être justement leur donner raison. Pointer du doigt ce qui ne va pas. De l'autre côté, on a un maître qui est soucieux. Soucieux de la bonne semence qu'il a plantée, parce qu'elle est fragile finalement. Et il cherche à en prendre soin. Ce maître a même peur de la déraciner. Le verbe est fort. Et c'est encore une autre manière de nous montrer à quel point l'accent doit être placé sur cette bonne semence. Parce qu'une fois arraché, en même temps que livré, la croissance s'arrête, la graine ou le blé qui est en train de donner meurt et la plante est totalement inutile. L'accent ici n'est pas mis sur les ivrées, mais sur le blé, la bonne semence. C'est un accent qui était mal placé par les disciples ou par les serviteurs, encore par nous, peut-être, dans certains aspects de notre vie. Zamperini, alors qu'il est libéré, une fois le conflit terminé, retourne au pays. Et de retour au pays, essaye de reprendre sa vie d'antan. C'est juste que derrière lui, il a ce souvenir qui le hante. Et nuit après nuit, ce sont des cauchemars qui le bousculent. Cauchemars de toutes ces tortures qu'il a subies, où il a été déshumanisé par ce Watanabe. Et même le jour, maintenant, il attrape ses crises d'angoisse. Les gens ont peur de lui. Il hait tout et tous. Il veut se venger, mais il ne sait pas comment le faire. Il va jusqu'à créer un plan de capture pour ce Watanabe qui est toujours en liberté, qu'on n'a pas encore retrouvé. Un plan un peu peut-être loufoque. Et puis il sombre dans l'alcool. Il essaye de s'échapper par le mariage, mais rien n'y fait. Un enfant, mais rien ne change. Il est toujours en proie à ses souvenirs et à ses angoisses. Alors il devient violent. Un schéma peut-être classique pour ce genre de personne. En tout cas, il est rongé par cette haine. Et c'est plus que ça qui l'anime. À tel point qu'il passe à côté totalement de toutes les bénédictions de sa vie. Complètement. Zamperini focalise sur le mal. L'accent est mal placé. Ça me fait penser à Paul. Prenons ensemble Romains au chapitre 7, versets 19 à 20. Romains chapitre 7, versets 19 à 20. Où Paul va quand même faire un effort d'authenticité et va se confier finalement à ceux qui vont le lire et encore à nous peut-être ce matin. Versets 19 à 20 dans Romains 7. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Comme Paul, nous sommes peut-être confrontés, et je pense que nous sommes tous confrontés à une tension permanente entre bien et mal, ce que je veux, ce que j'ai comme idéal, et ce que finalement je fais par mes actes. Une tension entre les bons et les mauvais fruits, entre la bonne et la mauvaise semence. Et cette parabole de la bonne semence nous invite à ne pas arracher, à ne pas entasser les ivrées, la mauvaise semence, à ne pas focaliser sur le mal, mais plutôt à être attentif à l'évolution de la bonne semence. Jusqu'à, nous dit le texte, maturité. Jusqu'à maturité. Frère, sœur, ne te bats pas contre le mal. Ne te bats pas contre ce qui ne va pas en toi. Ne lutte pas contre tes défauts, tes péchés. Oh, c'est clair, on ne demande pas d'être en transat. La vie du chrétien, ça reste un combat. Par contre, s'il ne faut pas se battre contre le mal, la parabole nous invite à lutter. Et alors, c'est cette invitation qui est lancée. Bats-toi pour le bien. Bats-toi pour préserver les bonnes choses. Bats-toi pour tes qualités. Bats-toi pour les compétences que Dieu t'a données, pour tes dons. Ça change tout. La femme de Zamperini assiste alors à ce moment-là à une campagne d'évangélisation, une des premières de Billy Graham. Et son mari voit ça d'un très mauvais œil, bien sûr. Pour lui, Dieu est responsable de sa souffrance. Mais voilà que, après insistance, il arrive finalement à rejoindre son épouse un soir. Et là, miraculeusement, il est touché par cette grâce divine que certains peut-être d'entre nous ont connue. Et ça a tout changé dans sa vie. Mais du jour au lendemain où il a accepté Christ, du jour au lendemain où le salut est rentré dans son cœur, il a cessé l'alcool. Du jour au lendemain, il a vécu une communion avec son épouse. Du jour au lendemain, ses nuits ont cessé d'être envahies par ses cauchemars. Du jour au lendemain, tout a changé. Parce que Christ. Il va même au-delà de ça. Il va retourner au Japon, sur la terre qu'il a vu tant souffrir, pour aller rencontrer ses bourreaux en prison et leur demander la réconciliation. Il va aller jusqu'à les embrasser. De retour au pays, il va développer un projet bienfaiteur pour les jeunes qui sont victimes de la délinquance. Un homme qui a complètement changé. Comment est-ce possible? Alors c'est sûr, c'est pas non plus le commun des mortels à qui ça arrive. C'est sûr, c'est peut-être très étranger à ce que nous connaissons. C'est un retournement de situation spectaculaire. Merci Seigneur si ça existe. Mais même si c'est spectaculaire et si c'est peut-être encore minoritaire, je pense qu'on est tous concernés par l'accent mal placé. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, ça m'est arrivé. Assez récemment. Même dans le travail de l'Église, l'accent peut être mal placé. Alors que j'étais ancien, comme mon cher collègue, Eddie, je faisais le douloureux constat que dans notre communauté, les visites étaient, à mon point de vue, négligées, pas assez développées. Et j'étais en train de faire un mail un peu bousculant pour que les choses bougent à l'équipe pastorale. J'ai demandé à ce qu'on puisse aller un peu plus en avant. Être proactif. J'ai mis exactement le doigt sur ce qui n'allait pas. Focalisation sur le mal. Presque limite accusateur, même si je me mettais dans ce groupe. Je n'ai pas compris tout de suite. Parallèlement, je méditais sur cette prédication, mais pour moi c'était deux choses séparées. Mais le Seigneur aime bien mélanger les choses. Et après il fait des ramifications étonnantes. Et ça m'a pris 2 jours quand même pour avoir ce flash. Et ce flash a été évident après 2 jours. Une des réponses à mon mail, c'était qu'on devait davantage prier. J'étais un petit peu mal au point. Non pas que je néglige la prière ou que je n'aime pas la prière, mais quand j'ai eu ce flash, c'était pour moi comme une claque. J'étais en train de préparer cette prédication avec l'accent mal placé, et dans mon euphorie ou mon envie de bien faire, j'ai mis exactement l'accent du mauvais côté. J'ai pointé du doigt là où ça faisait mal. Ce qui manquait, ce qui méritait d'être développé. Curieusement, le département prière dans notre communauté, c'est celui qui marche le plus. L'efficacité de la prière. L'accent mal placé. Alors mon frère, ma sœur, concentrons-nous sur le positif. Laissons mûrir ce bon en nous, parce qu'il y a du bon en chacun de nous, pour qu'il se développe pleinement. Et miraculeusement, j'ai envie de dire, parce que ça reste de l'ordre du miracle, ce bon, ce blé, fera de l'ombre à l'ivraie qui pousse juste à côté, qui finalement finira par dessécher d'elle-même avant de disparaître complètement. Comment est-ce possible? La question revient. Eh bien, je vous invite à prendre Jérémie 2, au verset 12 et au verset 13. Jérémie 2, au verset 12 et au verset 13. Et c'est l'Éternel qui parle. Jérémie 2, verset 12, verset 13. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Intéressant de voir la différence entre les deux images qui sont proposées dans ce verset. D'un côté, on a une eau vive, pour ne pas dire vivante, parce qu'elle coule continuellement, éternellement. Et de l'autre, on a une eau qui est stagnante, enfermée, cloisonnée, j'allais dire morte, pour ne pas dire nauséabonde à cause de ce manque d'air. Une eau en plus qui est enfermée dans une citerne, mais une citerne fissurée, autrement dit, cette eau n'est même plus là. Une eau sèche presque. Alors comment faire en sorte que la bonne semence soit cette semence sur laquelle on place l'accent et qu'elle fasse de l'ombre pour dessécher cette ivraie? Alors je vous propose une petite expérience ce matin. Si nous sommes dans notre cœur avec parfois des difficultés, et ça nous arrive certainement, avec aussi, comme le disait Paul, une tension permanente entre le bien et le mal, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on ne fait pas, ce n'est pas de l'alcool, je vous rassure, eh bien, peut-être que ça peut ressembler à certains de nos cœurs ce matin, un chant où on pense qu'il n'y a que de l'ivraie. Il n'y a pas que de l'ivraie, malheureusement, ou heureusement. Et il y a cette source aussi du Seigneur, comme l'a dit Jérémie. Alors la meilleure manière de clarifier une eau aussi trouble que celle-là, c'est simplement l'invitation du Seigneur de rester connecté à la source. Et en restant connecté à la source, vous allez voir cet effet du Seigneur qui clarifie. Oh, ça prend son temps, certainement. Mais vous pouvez voir déjà des effets miraculeux, à moins qu'on décide de ne plus être connecté ou qu'on reprenne la connexion. Et nous avons ici quelque chose de beaucoup plus pur, une bonne semence qui est bien visible. C'est l'invitation que ce texte nous laisse ce matin. La source de vie, ou la source d'eau vive, c'est également la même expression que va reprendre le Christ lorsqu'il va parler à la Samaritaine dans Jean 4. Et il va même jusqu'à promettre que les fruits iront jusque dans la vie éternelle. La bonne semence qui va être stockée, les grains qui vont être stockés dans le grenier du Maître, jusque dans la vie éternelle. Oui. Nos propres efforts, en tout cas, sont vains. Arracher l'ivraie, c'est un acte qui ne nous appartient pas. Parce que c'est en passant du temps à la source d'eau vive, avec Dieu, qu'on remarquera en fait que l'ivraie se dessèche toute seule. Et par l'unique effet de Dieu. Alors l'invitation de ce matin, c'est de méditer cette parole de vie. C'est de coupler cette méditation à la vie de prière. Et nous sommes justement dans 10 jours de prière, ça mérite de les vivre pleinement. Développons également nos dons, nos qualités, ce que Dieu a mis de bien en nous. Focalisons là-dessus. Parce que l'origine de la semence et des semailles, c'est soit Dieu, soit Satan. Et tu vis en toi et malgré toi les effets de l'un ou de l'autre. Alors, les effets de l'ivraie, qui sont certes dévastateurs pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent finalement. Et on aurait bien envie que tout soit fini d'un coup. Mais puisque le champ ne nous appartient pas, laissons le maître s'en occuper. Entre-temps, patience, patience et bonne nouvelle également, parce que finalement, c'est également à travers l'espoir qu'on place dans la solution ultime de Dieu qu'on pourra trouver enfin cette récompense. Ce bon grain qui a germé, qui a donné sa maturité, qui est utile et bon. Alors, déculpabilise-toi peut-être. Déculpabilise-toi parce que tu n'es pas forcément responsable du mal qui est en toi. Mais en même temps, responsabilise-toi aussi. Parce que c'est toi qui choisis de lutter contre le mal ou pour le bien. Et c'est là que réside toute la question. Si ce n'est qu'il n'y a qu'un seul des deux combats qui est le bon. Car l'ivraie, elle est toxique et il est dangereux de s'en approcher. Et tu t'empoisonneras la vie à essayer de l'arracher. Entre-temps, restons connectés à la source purifiante, à notre Dieu. Ça me rappelle l'histoire d'un vieil Indien Cherokee qui sentait son heure venir. Et jour après jour, depuis plusieurs semaines, il se tenait près du feu le soir, en attendant sa mort, tranquillement. Et ce soir-là, son petit-fils est arrivé. Il est venu à côté, il s'est installé simplement, il a mis sa tête contre lui. Alors le vieil Indien s'est dit, c'est peut-être le moment pour lui léguer mon héritage. Mais qu'est-ce que je vais lui léguer ? Alors, il s'est imaginé la terre, mais la terre ne lui appartient pas. Les objets, mais les objets, ça vient, ça part. Mais quelque chose que personne ne pourra jamais lui ravir, il lui raconta une histoire qui restera ancrée en lui toute sa vie. Et il lui dit, tu sais, dans ton cœur comme dans le cœur de chacun des hommes, il y a deux loups qui s'entre-déchirent et s'entretuent. Il y en a un des deux, c'est le bien. L'autre, c'est le mal. Le loup qui est le bien, c'est celui qui incarne la bienveillance, l'amour, l'humilité, la douceur, l'empathie, la générosité, la compassion, l'espoir, la vérité, la foi, la sérénité. Et l'autre, le mal, c'est la colère, l'avarice, l'égoïsme, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, l'infériorité, le mensonge. La fierté, la supériorité. Et les deux sont en pleine lutte. Et puis le petit est en train de réfléchir à ça et après un certain temps, il dit « Mais papy Cherokee, c'est qui, lequel des deux qui gagne ?» Et le vieil Indien sourit et répond « Ça dépend. Lequel nourris-tu ?» Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.